Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Au XVIIe siècle, François Vatel s'est imposé comme le roi de la fête et des plus beaux soupers. Ce fils de laboureur a connu une ascension sociale fulgurante comme maître d'hôtel de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances au château de Vaux-le-Vicomte, puis comme contrôleur général de la bouche du Grand Condé au château de Chantilly. Même s'il est reconnu pour son art de la table, Vatel se met dans tous ses états quand il doit servir le roi Soleil. Une crise de nerfs le poussera à commettre un acte irréparable qui le fera entrer dans la légende de la gastronomie française. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Vatel, l'art de la table à la française. Épisode 1, le maître de cérémonie. Nous sommes au château de Chantilly le 24 avril 1671. Il est 4h du matin. François Vatel, le contrôleur général de la bouche du Grand Condé, arpente la cuisine. Il attend la livraison de la marée, le poisson frais, qu'il a commandé dans différents ports du nord de la France. Ce soir, il doit cuisiner pour le roi Louis XIV et une bonne partie de la cour, ce qui représente 300 invités de marque et près de 2000 personnes en plus. Soldats, dames de compagnie, valets. Et ce vendredi, c'est carême. Il est obligé de servir du poisson. Et le poisson ne vient pas. Il ne survivra pas à ce déshonneur, plutôt mourir que de rater un souper royal. Alors que l'aurore blanchit l'horizon, Vatel entend un cheval de trait et les roues d'un chariot. Il se précipite à la rencontre de son livreur qui dépose deux paniers de poissons dans la cuisine. Seulement deux petits paniers. Le sol se dérobe sous ses pieds. Cela fait 12 jours qu'il ne dort plus pour préparer cette fête. Il n'a pas le courage ni la ressource pour changer ses menus au dernier moment. Si le poisson n'est pas livré, il en mourra. François Vatel naît en 1631 près de Tournai, en actuelle Belgique. Son père est laboureur. La vie le destine naturellement au métier de la terre. Et pourtant, François défie l'ordre social. Les historiens n'ont pas percé les secrets de sa jeunesse. Il serait peut-être entré comme apprenti vers l'âge de 15 ans chez un pâtissier traiteur. On ignore comment il finit par entrer au service de Nicolas Fouquet comme écuyer de la cuisine au château de Vaux-le-Vicomte. Nicolas Fouquet vient d'être nommé surintendant des finances à l'âge de 38 ans avec le soutien du cardinal Mazarin, le premier ministre de France. Cela fait de lui une sorte de ministre de l'économie au service du roi Louis XIV, qui n'est encore qu'un adolescent. Les Fouquet sont une famille issue de la bourgeoisie d'affaires. Nicolas s'illustre comme magistrat. Il est très riche et très ambitieux. Fouquet est très proche du cardinal Mazarin qui murmure à l'oreille de la reine-mère et du jeune roi. À cette époque, la cour, encore itinérante, se déplace entre le Louvre à Paris, Vincennes et Fontainebleau. Louis XIV ne commencera les premiers travaux pour agrandir Versailles, le relais de chasse de son père, que dans les années 1660, ce qui permettra la sédentarisation de la cour dans ce nouveau palais. Depuis le milieu des années 1650, Fouquet supervise le chantier de son château à Vaux-le-Vicomte. Celui-ci est situé à 25 km de Fontainebleau. Cette proximité lui permet de se rendre au conseil dans la résidence du roi. Comme Fouquet est riche à millions, il veut faire de Vaux-le-Vicomte un joyau architectural. Imaginez de vastes jardins à la française dessinés par André Lenôtre, le meilleur paysagiste de France. Les parterres de pelouses et de fleurs aux formes géométriques dessinent de vastes allées. Au cœur de ce jardin, il y a une douve au centre de laquelle s'élève le château de plan rectangulaire. Il s'élève sur 3 niveaux et s'organise en double enfilade avec 2 séries de pièces l'une à côté de l'autre, ce qui est une véritable innovation. C'est un petit chef-d'œuvre de classicisme signé Louis Le Vau. L'intérieur est une débauche de luxe et de dorure. On peut voir partout l'écureuil du propriétaire, puisque Fouquet signifie « écureuil » en gallo, un dialecte breton. Charles Lebrun, le peintre star de l'époque, s'est chargé de la décoration intérieure. Vaux-le-Vicomte est alors le plus beau château de France. François Vatel circule peu dans les étages nobles. Il dort dans un petit appartement sous les toits et dans la journée, il évolue dans les cuisines et à l'office situé au sous-sol, non loin de la salle à manger du rez-de-chaussée, pièce tout à fait moderne pour l'époque. Vers la fin des années 1650, Vatel, dont le talent et l'intelligence ont séduit Fouquet, devient son maître d'hôtel. Il gère les écuries, la cuisine et l'office. Disons que c'est le chef d'orchestre du quotidien. Les repas font l'objet de 5 services, parfois plus. La cuisine prend en charge les 3 premiers services et l'office les suivants. En gros, Vatel gère 2 brigades, des valets et probablement plusieurs maîtres queues, nom que l'on donne alors au chef cuisinier. Lui-même ne touche jamais une casserole. Il se charge aussi des achats pour la maison. Il négocie avec les marchands, la nourriture, les meubles et tout ce qu'il faut pour faire tourner une belle maison. Ce qu'il ne dépense pas finit dans sa poche. Ça explique pourquoi il est vite en mesure de se payer un très bel appartement dans Paris. Comme Fouquet tient en haute estime son maître d'hôtel, il lui confie également certaines missions comme déposer en toute discrétion des sommes d'argent à Versailles pour payer les travaux du château ou les gardes du roi. Il espère ainsi gagner les faveurs de Louis XIV pour devenir ministre. Pour éblouir son souverain, Fouquet décide de lui organiser une fête magnifique le 17 août 1661 et Vatel, en maître de cérémonie, est chargé de tout organiser, des menus au spectacle pour divertir la cour. Ce n'est pas la première fois que Vatel organise un souper pour le roi. Ses talents sont si appréciés que Louis XIV l'a lui-même emprunté à Fouquet pour organiser la visite en France de la reine de Suède. Mais cette fois, les enjeux sont différents. Fouquet veut une promotion. Vatel se surpasse. Louis XIV vient à Vaux-le-Vicomte avec sa mère, Anne d'Autriche, et une partie de la cour. Ça fait entre 2000 et 6000 couverts selon les estimations des historiens. Évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les plus nobles accéderont aux 80 tables d'honneur, les autres se contenteront d'un buffet. Mais au milieu du XVIIe, l'art de la table est complexe et seul Vatel en maîtrise tous les codes. À cette époque, les tables ne sont pas encore des meubles fixes. Ce sont des planches posées sur des tréteaux recouvertes de nappes blanches avec des plis en carré laissés par le fer à repasser et il faut que ce soit bien visible. Depuis quelques décennies, la mode a changé et chaque convive a ses propres assiettes, sa serviette savamment pliée et ses propres couverts. Les verres sont apportés à la demande par un serviteur sur un plateau. L'usage est de boire cul sec et de rendre son verre au valet. Ça permet de faire de la place sur la table. Les centres de table font l'objet d'une scénographie imaginée par Vatel avec des pyramides de fruits et des girandoles, des chandeliers à plusieurs branches. Et surtout, on fait entrer les invités lorsque la table est déjà dressée avec le premier service. L'effet est magique, mais c'est là que ça se complique. Le premier service est celui des potages, froids ou chauds, à base de lait, de fruits, de légumes ou de viande. On peut avoir sur la même table des potages à l'asperge à côté de potages de potimarron ou de potages d'oisillons aux lentilles. Tous les plats sont disposés en double de chaque côté de la ligne médiane de la table en faisant bien attention à alterner les couleurs, les textures, le chaud et le froid. La façon de poser les plats sur la table est donc le fruit d'une véritable réflexion qui nécessite des répétitions. Quand les invités prennent place à table, ils sont éblouis par la beauté de la décoration à laquelle s'ajoute l'éclat des chandelles dans les miroirs. Le repas commence par le plaisir des yeux. Pour recevoir le roi, Vatel a fait un choix audacieux. Il fait servir les tables des invités d'honneur de manière classique, mais il sert un ambigu à la table du roi. Ça veut dire que les plats des 5 services sont déjà sur la table. Je vous laisse imaginer la taille de la table. C'est une véritable débauche de nourriture colorée et odorante, de mets rares et exquis. Mais laissons Louis XIV se faire une orgie de petits pois, il adore ça, et reprenons le service aux tables des courtisans. L'art de la table consiste à ne jamais la laisser vide. Quand on enlève le premier service, on sert immédiatement le deuxième selon un positionnement rigoureux. Le valet dessert d'une main et resserre de l'autre un plat de la même taille. Le deuxième service est celui des entrées, avec ses viandes en sauce, ses pâtés, ses poulets, ses perdreaux, mais aussi le bœuf, que l'on réserve uniquement à ce moment du repas. Et il y a aussi des légumes pour accompagner, asperges, artichauts, carottes. Les aristocrates boudaient les racines et les tubercules depuis le Moyen-Âge, mais ils en raffolent depuis qu'on a inventé le potager. Le potager, c'est l'ancêtre de la cuisinière moderne qui permet des cuissons à la casserole, dans du beurre et sur un feu à température maîtrisée. Vient ensuite le troisième service, celui des rôts, c'est-à-dire des viandes rôties dans la cheminée. C'est le moment de servir du cochon de lait, de l'agneau, du petit et du gros gibier avec des salades d'herbes et d'agrumes. Les jours maigres, le maître d'hôtel privilégie les poissons. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas rôti, même si le service est celui des rôts. On sert le poisson uniquement au courbouillon. Le quatrième service est réservé aux entremets chauds et froids, salés et sucrés. Et tout ça est servi en même temps. On y trouve toutes les recettes avec du beurre, les tartes aux fruits et les tourtes aux légumes et à la viande, mais aussi des omelettes, des crèmes brûlées, et oui, ça existe déjà, et les crèmes au chocolat, ça c'est une nouveauté. On ajoute aussi des confitures sur la table, dont l'un des livres de recettes les plus anciens a été écrit par Nostradamus, celui qui prédit l'avenir et qui fait des confitures. Enfin, le cinquième service est celui du fruit ou du dessert, où Vatel lance les coupes de fruits en tout genre. On les mange crus depuis que les espèces ont été sélectionnées pour leur saveur à partir du début du XVIIe siècle. Et à ces fruits, on va ajouter des bonbons et toutes les pâtisseries sans beurre, comme les meringues et les macarons. Alors s'il y a autant de plats, c'est parce qu'à l'époque, on mange selon les principes de la diététique d'Hippocrate. On doit manger les plats qui conviennent à sa nature. C'est pour ça qu'en fait, on ne touche pas à tous les plats pendant un service. La durée idéale d'un service, selon les livres de savoir-vivre de l'époque, est d'un demi-quart d'heure, soit 7 minutes 30. Autant dire que Vatel, pendant les services, est un véritable général à la tête d'une armée de serviteurs qui marchent au pas. La soirée ne s'arrête pas après le cinquième service pour Vatel. En tant que maître de cérémonie, il dirige aussi les deux heures de divertissement qui suivent. Un concert de Lully avec 24 violons et une pièce ballet de Molière. Cette soirée est une réussite pour Fouquet. La cour est totalement éblouie. Mais cela ne plaît pas du tout à Louis XIV. Fouquet suscite plus d'admiration que le roi Soleil. Et on n'éclipse pas le Soleil. C'est presque un crime de lèse-majesté. Après les festivités, le surintendant des finances propose à son souverain d'aller se coucher dans la sublime chambre qu'il lui a réservée. Et le roi décline. Il préfère rentrer à Fontainebleau. Louis XIV est outré par les insolentes acquisitions, le dérèglement et l'ambition de Fouquet qu'il juge en plus de mauvaise foi. Le 5 septembre 1661, le propriétaire de Vaux-le-Vicomte est arrêté par le mousquetaire d'Artagnan à la sortie du Conseil de Nantes. Il va apprendre à ses dépens qu'on ne brille pas plus fort que le soleil. En apprenant la nouvelle de l'arrestation de son maître, Vatel doit prendre une décision. Rester en France pour soutenir l'homme qui a permis son ascension sociale et risquer la prison, ou fuir en Angleterre. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Vatel, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.